Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale législative 2017. Les 11 et 18 juin prochains, vous êtes invités à vous rendre à vos bureaux de vote pour choisir vos représentants à l'Assemblée nationale, vos députés. Tout au long de cette semaine, Couleur FM vous invite à entendre vos candidats sur les 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Et aujourd'hui, nous rencontrons Alexandre Bollo, qui représente, avec Myriam Yilmaz, sa suppléante, le Parti Socialiste dans la 6e circonscription. Bonjour Alexandre Bollo.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous d'être venu nous voir. Alors, question rituelle en début d'entretien, comme pour tous les autres candidats, je vais vous demander en quelques minutes de vous présenter, de dire à nos auditeurs, à vos électeurs peut-être, qui vous êtes.
Eh bien, écoutez, si on part de mon état civil, on va dire que je suis donc marié. J'ai trois enfants de 22 ans, 18 ans et 13 ans. Je suis originaire de Gironde et je suis arrivé dans l'Isère il y a une vingtaine d'années. Si on doit me qualifier, je serais tenté de dire que je suis quelqu'un de passionné et que tout ce que je le fais à fond. Que ce soit dans mon métier, donc aujourd'hui je suis avocat, associé de mon propre cabinet. On est 9 personnes sur Lyon, spécialisées en urbanisme et en droit immobilier. Et c'est vraiment un métier qui est passionnant parce que c'est des rencontres, c'est parfois des dossiers difficiles, c'est aussi de vraies satisfactions. Ma passion, c'est aussi le sport, que j'ai pratiqué à outrance ces 20 dernières années. Je suis quelqu'un qui a fait des courses, on va dire, extrêmes, que ce soit le Tour du Mont-Blanc, l'UTMB, que ce soit le Trail de la Réunion, que ce soit une quarantaine de marathons que j'ai pu terminer, ou des triathlons Ironman, que ce soit en Brun, Nice, enfin pas mal de courses à travers le monde.
Ah, vous êtes prêt pour la politique?
Je suis prêt pour les courses de fond. Je suis prêt pour les courses de fond. Et effectivement, même si c'est quand même différent dans l'approche, mais je suis quelqu'un d'assez tenace et de persévérant.
Très bien. Et vos engagements politiques?
Donc mes engagements politiques, c'est un engagement politique local. Moi, je suis ici de la société civile, donc toujours en activité et très impliqué dans mon métier. Mais quand je suis arrivé à Sermérieux il y a une vingtaine d'années, j'ai très vite eu envie de m'investir dans la vie locale pour faire évoluer mon village et pour travailler avec une équipe vraiment, vraiment motivée à transformer des choses qui nous paraissaient importantes. Donc je suis maire de Sermérieux depuis 2014, j'étais déjà adjoint à l'urbanisme depuis 2008 et ça m'a permis de bien connaître le village, ses problématiques et puis de m'investir complètement dans la vie locale. Naturellement, avec mon mandat de maire, j'ai été élu vice-président de la communauté de communes d'abord du Pays des Couleurs, donc autour de Morestel, qui s'est transformé donc en début d'année en communauté de communes des Balcons du Dauphiné, donc une grande communauté de communes de 47 communes et de 72 000 habitants. Pourquoi je précise ces éléments? Parce que cette nouvelle communauté de communes correspond à peu près à la 6e circonscription. Si vous rajoutez Ruy, Saint-Savin et Bourgoin-Jallieu, la partie nord, donc la partie de Jallieu, la circonscription colle à peu près avec la communauté de communes. Et aujourd'hui, donc, je suis vice-président en charge d'une activité qui est importante, qui est le tourisme, qui est une nouvelle compétence obligatoire qui nous impose de récupérer toutes les offices de tourisme avec une promotion du territoire qui est en train de se structurer et un enjeu très important. Le tourisme, c'est 2 emplois directs ou indirects sur 10 et c'est vraiment une activité économique à part entière. Et on a un territoire, c'est un diamant brut, vraiment un territoire à mettre en valeur. Et ça, ce sont vraiment des missions au service de l'intérêt général et de l'intérêt public qui sont passionnantes et dans lesquelles je m'investis totalement et pleinement.
Si vous êtes élu député, vous serez obligé de laisser votre mandat de maire?
Oui, effectivement, par rapport au non-cumul des mandats pour les communes de plus de 1000 habitants, je serais obligé de laisser mon mandat. J'espère quand même, je compte rester conseiller municipal pour être au courant et rester ancré sur le territoire, parce que ça, c'est vraiment très important. Être élu, c'est pas être élu pour être élu, c'est être élu en étant en connaissant son territoire, en étant ancré dans son territoire, en connaissant sa pathologie et en pouvant trouver les solutions adaptées. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un ancrage et de localement être en lien avec les gens et les différents sujets qu'il faut traiter. Et c'est pour moi, et peut-être un petit regret par rapport à la question du non-cumul des mandats, c'est pour moi quand même une vraie interrogation, et il y a ce travail de terrain qu'il ne faut pas abandonner. Après, le non-cumul, et notamment ce qui se prépare sur le non-cumul en nombre de mandats, ça, je pense effectivement que c'est important pour dépasser cette situation où on se trouve face à des professionnels de la politique qui travaillent à leur réélection et qui finalement s'investissent, à mon sens, pas assez, tant parce que c'est le rôle du député, sur l'action nationale à l'Assemblée nationale, donc pour le vote des lois, et puis au niveau local, pour fédérer et avancer sur les sujets qui sont importants. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Alors, j'espère, le temps est court dans ces 20 minutes, mais voilà. Alors, au niveau politique, où est-ce que vous en êtes, vous, au sein de votre famille politique, dans ce paysage qui se décompose pour se recomposer peut-être différemment, ou peut-être de la même manière? Je ne sais pas, comment voyez-vous les choses?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se cacher que l'étiquette du Parti Socialiste est abîmée. Pour autant, ça ne veut pas dire que les gens qui se présentent avec cette étiquette ne sont pas de qualité. Sur la 6e circonscription notamment, et depuis 30 ans, les gens sont habitués à voter pour une personne. Ils sont votés au regard de ce qu'ils considèrent être quelqu'un qui peut porter des idées ou qui peut porter des projets. Aujourd'hui, j'ai cette étiquette. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que dans mon champ de valeurs, par rapport à mes valeurs de gauche, je suis, on va dire, très sensible aux questions d'égalité, aux questions de justice, qu'elle soit sociale, et puis toutes ces notions qui nous font prendre en compte l'autre. Et c'est ça, c'est de dire, Alexandre Bollo, il est socialiste, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un de gauche. C'est quelqu'un qui a des valeurs de gauche. Après, je sais que c'est important pour les gens, Alexandre Bollo, c'est pas que ça. C'est quelqu'un qui s'investit localement, qui est ancré, qui est capable, parce qu'il a des compétences, parce qu'il est proche des gens, de trouver des solutions. Et je suis persuadé que, et notamment dans ce contexte de la 6e circonscription, les gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, seront amenés à voter Alexandre Bollo. Et j'ai des retours qui me sont faits dans ce sens-là pour dire c'est quelqu'un qui a des capacités, qui a des qualités. Après, l'étiquette, c'est une chose. Je crois qu'il faut dépasser les clivages. Aujourd'hui, de toute façon, la situation nous montre qu'il faut absolument dépasser ces clivages et qu'on doit travailler avec tout le monde sur les bonnes idées. À la communauté de communes, moi, j'ai l'occasion de travailler avec des gens de gauche et des gens de droite. Et ensemble, on essaie vraiment de trouver les solutions qui sont pertinentes pour notre territoire. Et c'est ce positionnement-là qui me semble vraiment pertinent. Il faut arrêter le clivage qui s'ancre dans le dogmatisme. Il y a une forme et un principe de réalité qu'il faut prendre en compte, et c'est vraiment le sens de ma candidature.
Qu'est-ce qui sépare votre candidature de la candidature de la représentante d'Emmanuel Macron, par exemple?
La grande différence entre la personne qui a été parachutée pour représenter Macron et ma candidature, c'est déjà le fait de connaître sa circonscription, de régulièrement de recevoir tant en mairie qu'en communauté de communes des gens qui m'exposent leurs problèmes, avec qui on peut échanger. Et d'ailleurs, ça m'arrive qu'au regard des sujets qu'on évoque, de faire évoluer mon point de vue. Donc c'est important de connaître son territoire, de connaître les gens. Ce qui va nous séparer, je pense que c'est le fait, c'est une forme de certaine liberté. C'est la candidate qui se présente en marche, et on voit la typologie tant des candidats que de ce qui leur est demandé, puisqu'ils seront amenés à signer une charte pour s'engager à voter toutes les lois, quelles qu'elles soient. C'est cette forme de liberté, moi, que je revendique, pour dire il faut voter les lois qui sont bonnes, les lois qui sont justes et les lois de progrès, et en même temps être en capacité d'amender, de s'opposer, de faire modifier les textes qui seraient dangereux. Je prends deux exemples. Aujourd'hui, notamment, on voit par rapport aux journalistes, on voit qu'il y a des frictions et qu'il y a déjà des positionnements qu'ils ont pris. S'il y a des lois qui sont amenées par rapport à la liberté de la presse à évoluer, moi, je serai en capacité de me positionner et de m'opposer et de faire connaître les risques par rapport à ce projet de loi. C'est cette forme de liberté, c'est de dire...
Vous dites ça pour me faire plaisir.
Non, j'ai eu exactement le même débat avec des infirmières, avec des notaires ou avec d'autres professions. Il faut être en capacité de porter le progrès, de porter le renouvellement, mais pas n'importe comment. Si je prends un terme un peu trivial, je pense qu'il faut accompagner avec bienveillance, parce qu'il faut que ça réussisse, il faut que la France réussisse et que le quinquennat puisse réussir, mais il ne faut pas tout gober. Je pense qu'il faut être en capacité d'être en contre-pouvoir et en contre-proposition. Et quand j'en parle avec les gens, quand j'en parle sur le marché, ça s'entend. Et au-delà d'une étiquette socialiste, c'est pour dire, oui, il faut renouveler, bien sûr qu'il faut renouveler, mais on ne peut pas être sur un système totalement descendant où les gens ne sont pas en capacité de faire des propositions et puis s'opposer, le terme est trop fort, mais en tout cas, enfin, s'opposer, si, s'il faut, faudra s'opposer, mais être en capacité de discussion et de faire évoluer ce qui nous paraît être injuste, tant sur les lois sociales, sociétales, tout ce qui remettra en cause nos droits fondamentaux. Et ça, c'est une vraie différence entre la candidate d'En Marche et moi. C'est cette capacité de dire, sur certains textes, il faudra vraiment que ça évolue et qu'on ne pourra pas prendre à la lettre tout ce qui sera proposé.
Très bien. Juste pour reprendre, vous avez utilisé le mot parachuté. Parachuté, c'est surtout quand on vient de l'extérieur. Elle est d'ici, mais elle est nouvelle, effectivement, en politique. Ouais.
Sandra Motin. C'est le fait d'habiter sur un territoire, c'est une chose, mais de s'investir dans les associations, de s'investir dans sa commune, de faire des choses au titre des aspects culturels, c'est ça aussi, c'est ça la société civile. C'est pas le fait de n'avoir jamais fait de mandat, c'est le fait d'être investi dans sa vie, qu'elle soit politique ou qu'elle soit associative. Et à ce titre-là, quelqu'un que l'on connaît depuis 10 jours et qui demande une investiture pour représenter 110 000 personnes sur un territoire qu'elle ne connaît pas, c'est vrai que ça pose question. En tout cas, moi, ça me pose question.
Et très bien, nous avons bien entendu. Alors, on va aller un petit peu dans le fond des choses, dans les idées, dans la pensée. Et puis, comme chaque autre candidat, je vais vous poser la question un peu conjointe de l'Europe et de l'économie. Quelle vision de l'Europe vous portez ? Peut-être les différences aussi que vous voulez valoriser avec ce que propose actuellement Emmanuel Macron. Et puis, quelle économie pour la France ou hors de l'Europe, selon ce que vous nous direz.
Ça, je pense que c'est un sujet qui est central et qui est majeur. Alors, quand on parle de l'Europe, et en filigrane, poser la question de la mondialisation. Dire que l'on est contre la mondialisation, ça n'a aucun sens. De toute façon, la mondialisation s'impose à nous. La France est dans le monde. Après, la France est un pays qui est certes grand par son histoire, mais qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde, a une voix qui porte moins. Je crois, et c'est pour ça que je pense que l'Europe est indispensable, la France doit réinvestir de manière importante le projet européen. Et c'est une Europe forte qui permettra de faire entendre la voix de la France à travers le monde. Alors, ça veut dire quoi réinvestir le projet européen ? Il y a déjà un investissement de 1 000 milliards d'euros qui doit être prévu pour réinvestir en Europe, et notamment sur tous les sujets de transition écologique et énergétique, pour soutenir les entreprises qui sont tournées vers l'avenir. Investir en Europe, c'est aussi lutter contre ce que l'on appelle le dumping social. On le voit par rapport au problème des travailleurs détachés. La question, c'est qu'on puisse avoir des règles au niveau de l'Europe qui soient harmonisées, et pour que n'importe quel Européen qui se déplace sur ce territoire ait certes des règles de protection, mais qu'il n'y ait pas de différence si importante entre les pays. Alors, sur la directive service, en deux secondes, c'est quoi la directive service ? L'Europe a été faite sur la libre circulation des marchandises et des personnes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'un autre pays, prenons par exemple la Pologne, bénéficie de ces règles de son pays. Effectivement, il est beaucoup plus compétitif sur le marché du travail en France. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir une harmonisation sur un principe de règles communes, et pour qu'un Français soit, on va dire, d'un coût de travail qui soit équivalent à un autre Européen. Donc ça c'est le premier point. Construire cette nouvelle Europe sociale et fiscale, parce que c'est ça le sujet. Passer de l'Europe des marchandises et l'Europe des circulations à une harmonisation sociale et fiscale pour que les entreprises n'aillent pas s'installer en Irlande, mais plutôt restent en France. C'est d'éviter tout ce qu'on appelle l'optimisation et l'évasion fiscale pour éviter ces frottements et avoir des entreprises qui s'en vont, des entreprises de capital. Et ça, c'est le premier point. C'est extrêmement important. C'est renforcer le projet européen, réinvestir dans l'Europe, parce que c'est à cette échelle que nous serons plus forts. Et une fois que nous aurons une Europe forte, nous aurons une Europe qui pèsera au niveau mondial. Et ça, c'est également un vrai sujet. C'est pouvoir se positionner par rapport à des grands pays et par rapport à des grandes économies. On voit par rapport aux États-Unis et on voit au Canada tous les traités qui sont en train de se négocier. Et là, ça, vous parliez des différences avec Emmanuel Macron. Ça, c'est une différence fondamentale que nous avons avec En Marche et Emmanuel Macron. C'est que nous sommes absolument contre les grands traités internationaux, et notamment le dernier qui est le CETA.
Le CETA, le TAFTA.
C'est ça, qui privilégie les grands groupes, qui privilégie les grandes économies et qui remet en cause notamment l'activité que nous avons sur nos territoires d'entreprises moyennes ou petites. Et là, c'est vraiment une différence, mais majeure que nous avons. Nous souhaitons protéger nos entreprises, et c'est dans l'un des projets qui est porté par le Parti Socialiste, c'est aussi protéger le fabriqué français. Permettre aux TPE et aux PME d'investir et d'avoir des marchés publics qui leur sont réservés. C'est alléger les règles aussi pour nos petites activités petite ou moyenne activité locale. L'emploi, il est ici. Et il faut vraiment veiller, et ça c'est important, à maintenir ce volume d'activité économique. Et tous ces grands traités internationaux remettent en cause ces principes.
Très bien. Et tout ça, cette transformation, cette évolution européenne vers tout ce que vous souhaitez, ça passe par un renforcement aussi du rôle, de la fonction politique des institutions européennes ?
Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une crise au niveau des institutions européennes, parce qu'il y a une crise de démocratie. C'est des activités qui sont très peu lisibles et je pense qu'il y a une réorientation de l'activité de l'Europe qui doit être prévue. On le voit, il y a des principes de réglementation sur des sujets. Quelle est la taille, je prends un exemple, mais quelle est la taille d'un sucre ou comment est-ce que doit être réglementée la création d'un produit. Il y a trop de normes sur des sujets qui viennent contraindre les gens. Je pense qu'il faut mettre plus de normes pour protéger socialement, pour protéger fiscalement et laisser un certain volant de liberté pour que les pays retrouvent une forme d'autonomie et d'indépendance sur des sujets qui sont typiquement locaux. À vouloir tout réglementer depuis l'Europe, c'est vrai que ça entraîne un certain rejet des institutions européennes de ce que ça représente.
Mais est-ce qu'il faut renforcer le pouvoir politique européen par plus de démocratie, plus de politique, ou est-ce qu'il faut rester dans l'Europe des États telle qu'on aime ?
Je pense qu'il faut mettre plus de démocratie et plus de politique et que la représentativité soit mieux exprimée et plus forte. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un échelon qui est peu connu, peu compris et avec un rejet qui est très dangereux parce qu'il faut se souvenir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a permis depuis le traité charbon-acier en 54, puis la création de l'Europe, on est quand même depuis plus de 50 ans sur on va dire un territoire de liberté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'il faut continuer à nourrir le projet européen parce que c'est lui qui nous protégera demain au niveau mondial.
Très bien. Alors, vous avez commencé à aborder tout à l'heure le domaine de la transition énergétique. Quelle est votre vision de cette défense de l'environnement, de l'écologie, à l'heure où l'enjeu essentiel, c'est certainement au moins le respect des accords de Paris de la COP21 qui sont aujourd'hui passablement remis en cause par les États-Unis?
C'est tout à fait catastrophique que le deuxième pays le plus pollueur au monde décide de ne plus respecter la COP21. Pour autant, est-ce que ça doit nous démobiliser? Je ne pense pas. C'est un sujet qui nous dépasse tous et on doit vraiment le prendre à bras le corps. La transition écologique et énergétique, elle se fait par des investissements. Il faut arriver à cette énergie, notamment l'énergie du troisième millénaire. Je pense qu'il faut aider de manière importante toutes les entreprises qui portent les innovations en matière technologique en abaissant leurs charges ou en actionnant la banque publique d'investissement. C'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. C'est une banque d'investissement qui a été mise en place au niveau de l'État et qui soutient l'activité des entreprises. Et je pense que 100% de toutes les entreprises, de tous les projets qui sont tournés vers l'innovation et vers la transition écologique et énergétique doivent être soutenus par la banque publique d'investissement. C'est vraiment quelque chose de très très important.
Vous avez parlé de l'importance de votre investissement local dans le territoire. Par rapport à ces notions d'environnement, l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui est important à gérer depuis le national ou...
Depuis le national, il faut effectivement donner toutes les impulsions, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient financières, pour de l'investissement. Moi, je vois au niveau de Saint-Mérieux, j'ai pas attendu d'avoir des règles qui me sont imposées. Ça fait plus de 6 ans qu'on nous sommes en zéro phyto, qu'on essaye d'avoir sur toutes nos actions des démarches qui sont environnementales. Donc, elle est vraiment à tous les niveaux, tant au niveau national sur les règles que sur l'exemplarité qui doit être donnée. Et puis après, les élus locaux ont le rôle à jouer complètement. Et alors sur l'échelon intermédiaire et intercommunal, ça va être le soutien à l'installation d'activités qui sont liées à toute cette transition énergétique. Je pense notamment à des fermes photovoltaïques qui se développent notamment sur la 6e circonscription. J'ai en tête près de 4 projets qui sont dans les cartons et que nous devons absolument accompagner parce que ce sont vraiment des sujets qui sont au plus proche de nous. Ça crée de l'activité et puis ça nous permet de mettre en place concrètement de nouvelles mesures en matière énergétique. Et ça, c'est très important.
Très bien. Alors, il nous reste presque moins d'une minute. Peut-être un petit mot sur la culture, votre vision de ce que devrait être une politique culturelle.
En quelques mots, alors c'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais toute la politique culturelle, éducative, sportive est une priorité absolue. Et je pense notamment à un axe et une orientation qui doit être donnée très fortement sur notre jeunesse. Et quand je vois que certains candidats, et notamment vers Charvieux, eux sont plutôt à vouloir fermer les MJC, moi je pense qu'au contraire, il faut investir de manière très importante pour nos jeunes et surtout des activités culturelle et sportive, associative et éducative. Parce que ce sont nos jeunes qui, demain, prépareront notre avenir s'occuperont de notre société. Donc, c'est important de les former et de leur ouvrir l'esprit. C'est vraiment essentiel.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces 20 minutes passées en notre compagnie. Alexandre Bollot, vous êtes donc le candidat du Parti Socialiste dans la 6e circonscription de l'Isère avec votre suppléante Myriam Yilmaz. Nous vous remercions d'être passé parmi nous.
Merci à vous.